Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le mardi 7 mars, c'est-à-dire dans quelques jours, ça va être la journée de la femme. Enfin, dans quelques jours, demain, ça sera la journée de la femme. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Élise Mbok. Peut-être que nous aurons du bruit, hein, parce que je suis à Yaoundé et Yaoundé, c'est chaotique. Vous avez toujours des bruits intempestifs parce que nous sommes dans un monde où rien n'est régulé. Donc, du coup, on a ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour cette fête du 8 mars, j'ai un sujet qui est... Enfin, j'ai un sujet, je suis tombée sur un livre de Mary Eberstadt. C'est un livre dont la promotion est faite en Amérique, donc c'est forcément une Américaine, malgré le nom qui fait un peu allemand, je ne sais pas trop. Et c'est une auteure, hein, apparemment à succès, que je découvre. Elle fait partie de l'Institut Faith and Reason, l'Institut, je ne sais pas, sur la foi et la raison, à Washington, D.C. Et son livre étudie... les conséquences de la révolution sexuelle dans le désarroi social américain de l'Amérique aujourd'hui. Alors, c'est fort, hein, comme sujet, parce que ce qu'elle dit va vraiment à contre-courant de ce qu'on pense, mais ça conforte un peu... les républicains dans leur démarche, ou plutôt disons, ça conforte les conservateurs dans la politique, dans ce sens que pour elle, c'est ce qu'elle appelle les sociétés, on va dire une société sans père, parce que j'ai pensé au livre d'Ivan Illich qui a parlé d'une société sans école. Et c'est vrai que là, son livre pourrait vraiment s'appeler « Une société sans père », c'est ce que vit l'Amérique, selon elle, depuis les années 60-70, où la révolution sexuelle arrive, et cette révolution sexuelle arrive au nom de la liberté sexuelle de la femme, hein, parce que l'homme n'a jamais eu de problème au niveau de la liberté sexuelle, et on critiquait toujours, sur le plan religieux, l'embrigadement des femmes dans une forme de sexualité trop normative et intégrée dans le mariage. Alors la révolution sexuelle est venue libérer tout ça et dire ah, ben, maintenant les femmes sont libres et très bien parce qu'avec cette liberté, elles pourront elles-mêmes contrôler leur grossesse, le fameux planning familial, la pilule est arrivée. Donc je crois que son livre c'est d'ailleurs « The Pill and the Fall of Humanity ». Donc, la pilule est arrivée, ça devait résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, il n'y aurait plus d'avortement. Par exemple, les mariages, enfin, pas les mariages, seraient plus la famille, seraient plus, soudés, enfin, moins stressés, parce que les grossesses étaient parfois non désirées, donc une famille qui serait plus heureuse. Voilà. Et au final, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les avortements n'ont jamais autant augmenté, les divorces n'ont jamais autant explosé, et la pilule n'a pas résolu le problème des grossesses hors mariage. Ce qui est quand même extraordinaire, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas que ce soit son accès qui soit difficile. La pilule, elle est là. Mais tout ce qu'on croyait qu'elle allait résoudre n'a rien résolu. Et au-delà de la pilule, parlons en gros de la révolution sexuelle. Donc, elle dit, que dans son livre, hein, parce que bon, on lui a fait des reproches forcément quand vous êtes le Faith and Reason Institute, on vous dit oui, vous avez votre côté religieux qui va dominer sur la raison. Bon, évidemment, là, elle équilibre très bien les choses parce qu'elle a des sources solides, elle a des faits irréfutables et elle dit très bien qu'elle fait pas de théologie, hein, elle regarde les évidences et l'évidence est que la révolution sexuelle a impacté le monde. Et au-delà même de la société américaine. Alors, comment elle a impacté le monde? Elle appelle ça déjà une Pandora Box. Hein. C'était une Pandora Box, puisque l'absence du père, qui est quelque chose qui paraît très insignifiant, est vraiment fondamentale. Et elle appelle ça clé, et clé pour la compréhension des dérives de la société depuis 60-70 que cette révolution est arrivée et qui est arrivée au nom de la libéralisation des mœurs. Donc, moi, j'ai pensé, j'avais écrit déjà en parlant de la condition bâtarde des immigrés, par exemple, ou de la. J'insulte pas, hein, mais l'immigré dans cette situation-là où il n'a pas de père, son père c'est qui? C'est le chef d'État africain? Ou est-ce que c'est la France, le pays dont il rêve sans arrêt? Je ne sais pas. Vous voyez, il est là, il est tourmenté, l'immigré. Et au-delà de l'immigré, c'est la question même aussi qui se pose en ce moment sur les Noirs africains, leur histoire, parce que ils sont aussi orphelins de père. Donc, mais il y a être orphelin. Et être bâtard, c'est pas du tout la même chose. Être bâtard, vraiment, c'est que il y a un père quelque part qui existe, et cela vous crée des frustrations, voyez, et qui sont conscientes et parfois inconscientes. C'est pour ça qu'elle parle de la Pandora Box. Et donc, parmi les conséquences, disons tout de suite qu'elle cite, elle dit que bon, la pilule, c'est ce qui est la pilule, pardon. L'absence du père, c'est la même chose d'ailleurs. C'est ce qui est, c'est le côté pile, le côté face. C'est ce qui crée, qui fait que la truanderie a augmenté. Vous comprendrez pourquoi. Que les problèmes psychiatriques ont augmenté parce que les jeunes, surtout les hommes, sont stressés et ils grandissent dans des familles où il n'y a pas de père. Ils comprennent pas pourquoi ils se rejettent. Vous allez dire originel. La criminalité a augmenté. La promiscuité avec la pauvreté, bien sûr, des familles monoparentales, la drogue, les viols, les violences domestiques, et puis beaucoup d'autres choses tragiques qu'elle énumère. Et c'est difficile à avaler son livre, mais il dit tellement vrai, car l'absence du père. Pour être plus, pour aller plus loin, pour détailler maintenant, plus de fois qu'elle a dit tout ça, elle a énuméré les conséquences. On va aller dans les détails et les détails vont nous dire que, d'abord sur le plan philosophique, la renouvelle, cette pilule ou cette révolution sexuelle a imposé une nouvelle religion qui est concurrente à la religion chrétienne, dans ce sens qu'elle vilipende, elle répudie les valeurs morales de la société traditionnelle. Et ces valeurs morales étaient donc ce qu'on vous connaissez. Et en remplaçant ces valeurs morales par tout ce qu'on a comme liberté sexuelle, qu'est-ce qu'on a déjà au départ? On a l'idée que on a déjà un décalage, un premier décalage qui est que le sexe a été déconnecté de l'amour, qui lui-même est, comment on va dire, est déconnecté du mariage. Donc avant, le sexe était connecté à ces deux choses-là, il n'y est plus. Le sexe est devenu une récréation. La femme revendique cela, sauf qu'elle peut tomber enceinte. Et quand elle tombe enceinte, et il appartient donc à la femme de se protéger, elle, contre une grossesse non désirée, mais pas à l'homme, parce que l'homme, lui, n'est plus concerné. Il y a beaucoup de partenaires. Hein. Il laisse la loi de l'offre et de la demande. Et du coup, la grossesse devient soit un problème à traiter, soit une maladie. Et dans tous les cas, c'est pour cela qu'on propose l'avortement à tout vent, à tout vent. Mais il se trouve qu'elle prend le cas d'une école, d'un établissement scolaire où elle était dans les années 70. Il y a une fille de 17 ans qui est tombée enceinte. Ça choquait les gens que pas qu'elle soit enceinte, mais que celui qui l'avait enceintée, revenant de la guerre du Vietnam, GI, ait refusé de l'épouser, ce qui est un scandale, parce qu'avant, ce n'est pas les grossesses hors mariage qui n'existaient pas, il y avait environ 20%, mais l'homme, le géniteur, se sentait obligé d'épouser la fille, parce que voilà, c'était encore, il y avait cette moralité quand même qui existait encore, ou plutôt ce sens des responsabilités, et probablement cette gêne de déconnecter. Alors pourquoi vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un si vous ne l'aimez pas, et si vous ne pensez pas vous marier? C'était inconcevable à ce moment-là. Et il se trouve que ça, c'était en 1970. 20 ans plus tard, ce n'est plus une seule fille qui est enceinte dans le lycée, c'est un tiers des filles qui sont enceintes. Et alors que l'avortement existe, la pilule existe et tout cela, et qui savent très bien que maintenant, ben voilà, être enceinte, c'est déconnecter du mariage, donc elle gère ça comme ça. Et le papa, de son côté, se sent pas plus responsable que cela. C'est donc l'enfant qui trinque dans toute cette histoire-là. Donc ça, c'est le cadre général de la chose. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas vu plutôt, c'est la déresponsabilisation du père, voilà, qui n'est plus un père d'ailleurs, qui est un amant parmi tant d'autres, et la femme qui devient une proie. Elle devient une proie sans s'en rendre compte parce elle a confondu la liberté et quelque chose comme la protection de son corps. Vous voyez, il y a une liberté qui peut devenir prédatrice, voilà, qui vous dispose à la prédation, et une sorte de sévérité qui est plutôt protectrice. C'est ce qu'il y avait. Donc, on a eu un raisonnement très facile dans l'explication et l'exposé des choses. Parce que souvent, quand on parle avec irresponsabilité au peuple, le peuple ne comprend pas tout. Il faut faire très attention quand on lui. En tout cas, il n'y a pas le temps en politique de nuancer le propos. On est obligé de le dire comme ça, sous forme de slogan. Mais dans la vraie vie, les choses ne se passent pas ainsi. Donc pour elle, voilà, ben, quand vous désobéissez, voilà les conséquences. C'est le côté religieux. Alors les effets, très clairement, quand elle va point par point, au-delà donc de ce que ça crée déjà dans le rapport homme-femme, et d'ailleurs, restons dans le rapport, sur le rapport homme-femme, où elle est dit, l'homme, il commence par la romance pour aboutir au sexe. Alors que la femme, elle commence. Comment il dit ça? Pour elle, le sexe, c'est le début de la romance. Voilà, donc on est dans un rapport, dans un temps inversé. C'est comme quelqu'un avait dit, les uns étaient de Mars et d'autres de Vénus. C'est exactement ça. Et la femme, lorsqu'elle est. Pour elle, la sexualité est le début de la romance. Et pour l'homme, c'est déjà la fin de la romance. Voilà, ce décalage crée déjà un gros problème dans les rapports sexuels entre hommes et femmes. Et quand on complique cela par l'offre débordante, hein, vous voyez, des femmes à profusion, c'est très compliqué. Mais sur le plan donc des effets, sur le plan économique, tel qu'est dit, sur le plan économique, c'est simple. 65% d'enfants, voire 70% d'enfants, surtout chez les Afro-Américains, parce qu'il faut prendre ceux qui sont un peu pénalisés, vivent dans les familles monoparentales, c'est-à-dire sans père. Ah, c'est single parented, ils disent. C'est terrible. Taux de criminalité, 80% des prisonniers sont issus des familles sans père. Voilà. Là, ça concerne les blancs et les noirs, mais majoritairement toujours les noirs. Et ça repose la question dont on parlait la dernière fois sur les liens forts et les liens faibles. Donc la famille, les familles sont affaiblies. Ce n'est plus le noyau qui permettait donc aux gens de se sentir forts. Non, c'est plutôt la famille qui est lâche, qui s'est relâchée et Ces temps relâchés, les jeunes sans père ont tendance à chercher des communautés proches et souvent pour se trouver une identité. Et c'est souvent donc les gangs à côté, c'est souvent ce qu'ils trouvent à proximité qui va leur donner une forme d'identité, n'ayant pas une, ayant perdu celle qui vient naturellement par le père. Donc, quand tu dis que. Cette chose-là n'a pas été bien vue aussi par l'Église, puisque on a les divorces, on a les avortements, on a les adultères, on a l'homosexualité, on a la transgenrerie, et l'Église est un peu déchirée, comme on peut dire, sur cette reconfiguration sexuelle qui fait que on n'a plus d'identité chrétienne, mais une identité par tous ces, comment je vais dire, je vois pas comment le dire, hein, tout ce désarroi, on va dire comme ça, toutes ces conséquences multifacettes, tout ces choses qui se réfléchissent les unes sur les autres et qui font qu'au final, par exemple, tout est considéré comme famille aujourd'hui, puisque le politique s'en est saisi, le politique lui-même un peu perdu aussi, et puis opportuniste, et puis irresponsable, rendu irresponsable, surfe sur la vague, hein, sans voir que plus ils surfent là-dessus, plus ils font des victimes malheureuses. Tout est devenu famille, on appelle tout famille, vous êtes dans des familles homosexuelles, bah, l'homosexuel, c'est des familles, les transgendres, c'est des familles, tout ce que vous voulez, c'est considéré comme famille. Or, ce n'est pas des familles, c'est un travestissement de la famille. On parlait de la famille pour tous. On arrive au fait que, par exemple, on a ces familles recomposées, hein, où il y a un beau-père, où il y a un demi-frère, où il y a, je sais pas, les enfants de qui, de si. Ces familles recomposées, c'est tout sauf vraiment une véritable stabilité familiale, mais ça se discute, on peut se discuter, mais ça pose surtout la question de l'identification. À qui est-ce que le jeune s'identifie aujourd'hui? C'est la question. On a d'ailleurs le fait que la famille nucléaire, quand même, avait comporté un frère, une sœur, hein, des cousins, des cousines, des tantes. Le garçon ne vivait pas comme ça, sans référence à la fois masculine et féminine. Masculine parce que ça lui permettait de conforter son rôle protecteur, et féminine aussi, parce que quand il a une sœur, il la protège. Vous voyez, il est moins enclin à la prédation, alors que lorsqu'ils sont dans un groupe de garçons, ben, ils se considèrent comme invincibles, prêts à tout détruire. Et ça fait que, par exemple, elle est interviewée, j'ai dit son nom, je ne sais plus quoi, Eberstadt, et celle qui l'interviewe lui dit que oui, ben, elle a eu des problèmes à l'école une fois, elle était en jeune fille avec un garçon qui essayait de, hein, et puis son frère est venu, il s'est présenté, ah, le garçon, dès qu'il a constaté que la fille avait un frère, il a tout de suite arrêté son harcèlement, vous voyez. Donc, il y avait cette façon de vivre là qui faisait que lorsque les femmes étaient harcelées ou qu'elles étaient victimes de violences, et même avant, il y avait un effet préventif qui était le père, qui était aussi le frère. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout cela. Il n'y a plus le père et puis le frère, parfois il est seul, parfois lui, depuis, il a disqualifié ses parents. Et c'est un problème, c'est beaucoup de problèmes. Et sur le plan ontologique même, voilà, donc perte de repères identitaires, société sans père, sans adulte, parce que la société ne peut pas être adulte s'il n'y a pas de référence au père. Et s'il n'y a pas de référence au père, il y a une perte même de la notion d'ascendance, donc de la filiation. Et sans ascendance, comment voulez-vous qu'il y ait une descendance? Donc il n'y a pas une descendance possible. Et la perte d'autorité. idée. Ça crée un laxisme généralisé. Lequel laxisme, quand on peut dire law and order, la loi au moins était censée régler cela, mais elle règle pas parce qu'on a eu des oligarchies à côté et qui ont créé une société spontanée, oligarchie c'est ailleurs c'est kleptocratie, qui ont créé une société spontanée qui fait que bah, c'est le retour à la loi de la jungle et donc les petits gants se sentent confortés là où ils sont parce qu'au sommet, c'est la même chose, toujours parce qu'il n'y a pas de père. Société sans père, société sans racines, société sans territoire. On a parlé la dernière fois de la critical race theory et de tout ce qui se passe aux États-Unis sur le besoin d'histoire des Afro-Américains parce que. Justement, ils sont dans le flottement. Non seulement ils ont perdu leurs racines, mais en plus ils se retrouvent déracinés quelque part où ils n'arrivent pas à s'enraciner précisément parce qu'il y a l'absence du père. Et comment faire pour que. Bon là, on a ce côté, ça j'ai parlé d'ontologie, hein, parce qu'on a ce côté déportation qui joue beaucoup de rôle. Et comment reconstituer la famille par-delà la déportation, c'est assez compliqué. C'est le politique qui devrait faire cela. Mais maintenant que le politique louvoie, parce qu'il parle d'indoctrination, d'endoctrinement, indoctrination, endoctrinement, qui va aboutir à des effets de division, de séparation entre les communautés, une fois que les Noirs seront ce que les colons leur ont fait, etc., etc. Mais moi, je ne crois pas trop à cette thèse-là. Et ils le voient, et puis d'autres personnes disent que non, mais justement, il faut que les gens sachent d'où ils viennent, qui ils sont. Bon, dans le cas de l'Amérique, est-ce qu'ils le sauront vraiment? Peut-être oui, peut-être non. Et comment est-ce que cela va être résolu? Mais cela va être résolu par un retour à la famille nucléaire, bien sûr, évidemment. Et le sujet est long, est long, est long. Je passe beaucoup de choses. Et pour arriver quand même aux politiques qui vont nous intéresser, c'est, voyez, l'homme. Et quand j'ai dit aux politiques, c'est aussi à tout ce qui est égalité homme-femme. Voilà, quand on a bien fait la révolution sexuelle, on arrive maintenant à ce qui est inévitable, c'est que ben, la femme peut choisir autant de partenaires qu'elle veut, l'homme aussi. Donc tout le monde est égaux en droit et en devoir. Bon, ben, sauf que ça ne marche pas comme ça, parce qu'après il y aura des grossesses, parce qu'il y a des enfants, et parce qu'il y a des enfants qui grandissent sans père et qui ont la rage au cœur et qui sont perdus comme ça. Et la société n'a pas de réponse pour ces enfants-là. Elle n'a pas de réponse parce que dans la critical race theory, justement, il y a un enseignant qui dit, mais vous savez très bien que dans les conditions d'accès à un bon emploi, il y a la question de la richesse, de la famille, le background, la question des privilèges et la question de la blancheur de la peau. Donc ça, c'est des choses qui vous donnent de passe-droit, des passe-droits devant les autres. Alors comment on fait pour rattraper tout cela? Est-ce qu'il faut donc que les Noirs accèdent de plus à la richesse ou plutôt, on va pas leur donner, mais on va faire ce qu'on appelle l'égalité des chances, c'est-à-dire que nous ne partons pas du même endroit, et puisque certains partent 200 mètres avant que moi je n'arrive, par exemple, bon, il faut quand même qu'on me donne les moyens de combler le handicap des 200 mètres. Voilà comment les choses se présentent. Et ce handicap, c'est entre autres aussi que lorsqu'on arrive sur la même ligne de départ, que celui qui a la couleur blanche ne se demande pas, mais lui, il sort d'où? Mais qu'il sache très bien d'où il sort et que c'est justifié qu'on ait donné ces 200 mètres, qu'on ait aidé parce que il vient des conditions assez. Bon, oui, toutes ces choses-là ne veulent pas être discutées, mais il y a d'autres façons de régler ce problème, surtout côté richesse, wealth. Bah, il y a beaucoup de Noirs qui ont accès déjà à la richesse. Hein. Côté privilège, je sais pas trop, peut-être, mais il y a quoi des problèmes. Et côté blancheur la peau ou noirceur la peau, il y a de gros problèmes. Donc, le politique à jouer là-dessus, l'égalité homme-femme ou égalité citoyenne blanc-noir, tout le monde pareil. C'est pas aussi simple, mais ça simplifie les choses parce que tout le monde est devenu responsable, il n'y a plus de figure tutélaire, une société sans Dieu. Fait que, voilà, on cherche Dieu partout, là où il n'est pas. Et au lieu que l'homme entre dans un rapport de transcendance et d'autorité qui fixe les repères en même temps que les frontières, c'est lui qui aujourd'hui est dans une forme de régression, vous voyez? Parce que l'homosexualité, c'est une régression. L'homme est dans une forme de régression, il fuit ses grossesses, il engendre des enfants, il s'enfuit, c'est quelque chose de... Il n'est pas obligé de se marier, mais il faut quand même qu'il prenne soin, quand même. Et cet homme qui est complètement en régression, Google essaye d'en faire un homme augmenté, je ne sais pas jusqu'où il ira, ça crée tous les fléaux qu'on connaît, parce que l'homme est rabougri, il devient très facilement corruptible, il devient bon prédateur, ça c'est évident, et il entre en permanence dans un processus individualiste qui le conduit à un détournement des biens publics et des institutions en permanence. Donc, la société sans père, on va pas dire bâtardise ou la société bâtarde, ça sera pas gentil. La société sans père, c'est quelque chose de fondamental, et c'est pour ça qu'on prie le Notre Père qui est aux cieux. C'est pas comme ça. C'est vrai que quand c'est de la religion, on dit c'est dogmatique, c'est fanatique, c'est je sais pas, c'est une certaine idée qui dépasse l'entendement. Mais c'est très concret, hein, le Notre Père. Ça c'est l'axe. Le Notre Père, c'est l'axe. C'est l'avenir, c'est le passé, c'est le futur, c'est le présent. Et sans autorité, la mère n'a pas l'autorité de nature que le père a. Malheureusement, chacun son rôle. Elle donne la vie. Et encore que, bon, on dit que c'est l'homme qui donne la semence, mais bon, elle protège cette vie-là. Chacun un peu son rôle. Alors, qu'est-ce que la femme dans tout ça devient? On voit aujourd'hui, moi je suis en Afrique, hein, en Afrique, on a des deuils tout le temps. Il y a des deuils tout le temps, tout le temps. Mais alors que vous entendiez parler de mariage, je ne sais pas comment le dire. C'est tellement rare. On se marie plus, les gens ne sont pas obligés de se marier. Pourquoi? Pourquoi se marier? Il y en a tellement. Et puis les filles aussi de leur côté. On dirait qu'elles sont prises dans cette mouvance, pas pourquoi se marier, elles comprennent pas. Enfin, elles se posent même pas la question de se marier, pourquoi elles sont mariées, pourquoi elles sont pas. C'est pas le problème. C'est qu'entre-temps aussi, il y a quelque chose qu'elle a évité d'invoquer, c'est la place de l'argent. L'argent, roi, comme on dit, c'est le nouveau dieu de la nouvelle religion qui a suppléé l'autorité paternelle par l'autorité, le pouvoir de l'argent. Si vous avez l'argent, hein, ça vous suffit en hein, quelque sorte, c'est votre Dieu, vous n'avez besoin de rien d'autre. Moi, je suivais une fille qui disait l'autre fois que elle gagnait 1 500 francs d'allocation familiale. Je l'ai vu faire un extrait dans un débat et elle avait en face d'elle un mec. Elle lui disait, ben, si tu gagnes 1 000 euros, moi j'ai 1 500 pour les allocations familiales. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gars comme toi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Ah! Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Ben, rien. Parce qu'il faudrait que celui qu'elle voudra bien accepter ait probablement 2 000 euros. Alors qu'est-ce qu'elle aime là? Elle n'aime pas. Sexe déconnecté de l'amour. Sexe déconnecté du mariage, révolution sexuelle, grand paradoxe, avortement par-ci, avortement par-là, usine à avortement, et grand paradoxe, divorce, taux de divorce, famille éclatée, incroyable, et grand paradoxe, les jeunes filles n'ont jamais été aussi enceintes, et l'État n'a pas un dispositif pour prendre en charge ce fléau-là et ce phénomène. Et puis, grand paradoxe alors absolu, l'absence du père n'a jamais été aussi grande. Et grand paradoxe absolu, ben, les jeunes sont perdus, ils n'ont pas quelqu'un qui les oriente. Alors, dans le manque d'emploi et le chômage des jeunes, l'absence du père y est pour beaucoup. Parce que ce sont les relations du père aussi qui permettent aux enfants de trouver du travail. Bon, on va dire peut-être que la mère travaille, mais on sait très bien que là aussi, au niveau de l'emploi, pour les femmes, elles n'ont pas les emplois que les hommes ont. Les hommes ont les meilleurs emplois que les femmes et un réseau amical plus étoffé que les femmes en général, qui sont plus en concurrence entre elles. Bon. Après, hein, si vous voulez, hein, il n'y a plus de morale. Monsieur Biden peut faire sa guerre en Ukraine. Que voulez-vous que ça lui fasse? Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait de l'argent par le trafic des armes, par le trafic justement sexuel toujours des humains, le trafic des organes, la vente de drogue. Mais c'est ça qui les intéresse dans la guerre. Et c'est ça qui fait aussi que le complexe militaro-américain industriel vit de ça, de la vente des armes. Donc il faut créer des guerres. Du coup, l'absence du père aussi, ça crée une société. Bon, sans repère, bien sûr, et si on est sans repère, on est sans foi ni loi, et si on est sans foi ni loi, on est dans la guerre, et puis si on est dans la guerre, c'est des sociétés morbides. Bon, que voulez-vous dire? C'est peut-être pas l'absence du père, donc, c'est-à-dire, les sociétés sans religion, les sociétés sans père, c'est la même chose, et les sociétés où on a remplacé Dieu par l'argent, parce qu'une fois que vous avez évacué Dieu, il faut bien en trouver un autre, comme les Égyptiens avaient trouvé le veau d'or, vous savez, dans le désert. Il faut bien le remplacer et qu'ils vénéraient déjà. Donc la nature a horreur du vide, toutes ces choses-là, on les connaît. Mais ça, ce sont des débats qui ne seront jamais portés quelque part dans une campagne présidentielle, parce qu'on voit déjà les républicains qui se déchirent. Chacun veut aller devenir calife à la place du calife. On s'en fout, il n'y a pas de morale. Parce que s'il y avait une morale chez les républicains, Trump serait le seul candidat. Mais même Nikki Haley, qui l'a nommé sans foi ni loi, elle avait dit, oh, je ne me présenterai jamais contre le président Trump. Ben non, ben si, elle est candidate. Oh, et puis, etc. Bon, à la limite, laissons la place à la concurrence. Mais déjà, tout ce qui était code de l'honneur a disparu parce que le militaire lui-même s'est dévoyé. Tout ce qui était moral, dignité, etc., vous avez tout compris. Et je termine quand même ici par la dernière fois, on a parlé de l'homme d'affaires Amougou Belinga et du journaliste Martinez Zogo tué dans un imbroglio qu'on a du mal à comprendre. Ça devient un thriller policier. On n'a toujours pas le juge, je crois qu'il en perd son latin, il n'a toujours pas pu mettre la main sur le véritable assassin, à moins que on le cache au Camerounais. Monsieur, donc l'homme d'affaires, patron de Vision 4, multimédia, pas seulement multimédia, il fait beaucoup de choses. On en a parlé dans le dernier flash. Il est incarcéré pour complicité de torture ou aide à la torture, je ne sais pas trop. Bon, maintenant, qui a tué, qui a torturé, on ne sait toujours pas. On verra, on saura un peu plus. Mais là aussi, la justice entretient un flou artistique. Ce n'est pas la justice, en fait. Ça, c'est encore le tribunal militaire. Hein. Bon, on est toujours dans le même registre. Hein. Le tribunal militaire, ce n'est pas la justice, parce que la justice, elle, c'est différent. D'ailleurs, Monsieur Trump a dit qu'en 1900, c'est pas en 2006, en 2016, lorsqu'il s'est présenté, il s'était présenté comme le candidat, comme celui qui devait porter notre voix, comme notre voix. Alors maintenant, il se présente comme notre guerrier. Ah ouais, il a dit, il ajoute, et comme notre justice, celui qui va nous redonner justice, qui va faire justice pour nous. Et puis pour ceux qui ont été trahis et abusés. Il se présente comme la rétribution, forme de, je sais pas comment dire ça en termes, c'est pas le salut, mais il y a un mot religieux qui m'échappe tout de suite, c'est pas la miséricorde non plus, c'est un peu comme le rachat, voilà. Il va nous venger de tous les maux que nous avons, dont nous avons souffert. C'est notre rétribution. Rétribution, c'est très fort en anglais, ça veut dire beaucoup de choses. Et que dire après cela? Pour le moment, vraiment, on attend impatiemment qu'il soit le guerrier, l'archange Saint-Michel, qu'il soit la justice, l'épée de la justice, et qu'il soit la rétribution. Il y a un nom. Religieusement parlant, que j'oublie. J'ai envie de finir cette émission quand même en disant que ici à Radio Silence, on a associé à SOS Maman, qui vraiment a ce projet-là à cœur d'essayer de supplier à l'absence du père comme ils peuvent, hein, parce que les jeunes filles sont enceintes, un peu dans le désarroi, les pères sont quelque part perdus, les filles sont plus ou moins écartées, et SOS racisme, SOS racisme, SOS maman, c'est une forme de racisme aussi, fait un travail extraordinaire là-dessus. Vous pouvez aller sur le site SOS Maman et si vous voulez contribuer pour aider les jeunes mamans en détresse, ben, ce serait, je vais pas dire très bien, mais bon, ce serait une bonne chose. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde à la veille de quoi, la Journée internationale de la femme. Vous savez, il y a toujours une journée pour les minorités. Et je vous dis à bientôt. C'était Élise Mbok depuis Yaoundé. Bonne fête quand même aux femmes et aux mamans.